Vous écoutez, on lit pour vous.
Tension avec les États-Unis, le Manitoba affiche un patriotisme économique. Un texte de Jonathan Sema, paru le 26 mars 2025 dans La Liberté. Probe Research a publié son plus récent sondage sur l'opinion des Manitobains sur les relations entre les États-Unis et le Canada. Un patriotisme canadien est clairement observé. C'est déjà le troisième sondage à ce sujet que lance la firme Probe Research en partenariat avec le journal Free Press. Après les opinions manitobaines sur l'élection américaine, puis sur la potentielle guerre commerciale avec nos voisins du Sud, Probe Research s'intéresse au sentiment patriotique qui s'est décuplé depuis ses actualités. En effet, les résultats de ce sondage révèlent un fort sentiment de fierté nationale au Manitoba. Plus de trois quarts de ceux qui ont été interrogés indiquent qu'ils sont plus fiers du Canada aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à la même époque l'année dernière, peut-on lire. Les femmes, les résidents de Winnipeg et les personnes âgées de plus de 55 ans sont plus susceptibles d'exprimer ce sentiment accru de fierté, souligne le rapport. Il a été également observé qu'environ 19 % des Manitobains ont fait un effort pour porter des vêtements avec la feuille d'érable ou le drapeau canadien. Un pourcentage similaire de Manitobains, soit 17 % explique avoir accroché un drapeau canadien à son domicile. Plusieurs chiffres démontrent aussi un boycottage des produits et du tourisme américain. 80 % des Manitobains indiquent éviter activement d'acheter des articles provenant des États-Unis. Ce chiffre est en augmentation par rapport au début février, où ils étaient 75 %. 65 % des Manitobains ont acheté un article fabriqué au Canada plutôt qu'un produit américain au cours des 6 semaines précédant le sondage. 70 % des Manitobains sont d'accord pour dire qu'ils ont annulé ou décidé de ne pas faire de voyage aux États-Unis en ce moment. Ce chiffre est également en augmentation par rapport à février, où ils étaient 60 %. Les produits canadiens sont d'abord choisis. À noter qu'une grande partie des sondés approuve l'imposition de tarifs canadiens équivalents. 80 % des Manitobains sont d'accord pour que le Canada impose le même montant de tarifs sur les produits américains que les États-Unis sur les produits canadiens. En revanche, 65 % des personnes interrogées reconnaissent qu'il est difficile de savoir quels produits sont fabriqués au Canada. Enfin, Probe Research interroge les Manitobains sur l'idée d'une annexion du Canada par les États-Unis lancée plusieurs fois par Donald Trump au cours des derniers mois. Les Manitobains rejettent massivement cette idée. 80 % d'entre eux se disent fortement contre l'idée de se joindre aux États-Unis. Seulement un Manitobain sur 10, 11 % exprime un soutien à l'idée que le Canada fasse partie des États-Unis. Parmi eux, l'on observe que 30 % des 18-34 ans sont plus enclins à soutenir l'annexion. C'était « Tension avec les États-Unis, le Manitoba affiche un patriotisme économique ». Un texte de Jonathan Sema, paru le 26 mars 2025 dans « La Liberté ».
Sur l'héroïsme, un texte d'Émilie Nicolas, paru le 6 mars 2025 dans Le Devoir. il s'est dit beaucoup de choses sur l'art de tenir tête à un intimidateur. Il ne faudrait pas le laisser faire, il faudrait lui répondre, il ne faudrait pas s'en occuper, ni se montrer faible. J'écoute les messieurs, car il s'agit surtout de messieurs, nous donner leur avis sur la manière dont on doit se montrer fort, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils font de la théorie politique à partir d'une image de chicane de gros bras dans une cour d'école. C'est souvent le premier contexte qui leur vient en tête lorsqu'il est question d'intimidation. C'est que la manière dont Trump essaie de nous intimider, nous, des adultes, est une expérience tout à fait nouvelle pour bien des Canadiens. Mais je ne peux m'empêcher de penser, et encore plus depuis que les images de Zelensky à la Maison-Blanche ont fait le tour du monde, que cette dynamique n'a rien de nouveau pour bien des Canadiennes qui, comme d'innombrables femmes partout dans le monde et à travers les âges, ont appris à survivre à un intimidateur dont elles sont dépendantes financièrement, à qui elles sont aussi liées par un ensemble d'obligations sociales, relationnelles et contractuelles, qui posent un réel danger pour leur sécurité matérielle et physique et qui voient leur corps comme un territoire à conquérir, à piller ou à saccager, encore et encore. On est loin du concours de qui pisse le plus loin. À la mi-février 2025, l'ex-premier ministre Stephen Harper a fait une sortie remarquée. « Je serais prêt à appauvrir le pays pour ne pas être annexé », a-t-il avancé dans un événement à Ottawa, encourageant à demi-mot son dauphin, Pierre Poilievre, à faire preuve de colonne vertébrale. « S'appauvrir pour conserver sa dignité ». Voilà une idée qu'on entend peu dans la sphère politique canadienne, sauf que, dans le quotidien des ménages canadiens, c'est une réalité qu'on a normalisée. Les études nous montrent que les femmes tendent à s'appauvrir beaucoup plus que les hommes après une séparation. Pourtant, lorsque la situation est intenable, voire violente, elles se séparent quand même. Même si c'est un processus long et douloureux, même si elle hésite et tergiverse. Au bout du compte, si leur dignité est en jeu, si leur partenaire s'avère être un intimidateur, elles font le choix, économiquement irrationnel, de regagner leur autonomie. Elles renouent avec leurs proches dont leur partenaire les avait isolés. Elles se constituent un fonds d'urgence. Elles contactent des ressources, en cachette s'il le faut, même si le risque est énorme. Stephen Harper aurait-il percé l'un des secrets de la détermination féministe? Cet esprit n'est pas intrinsèquement propre aux femmes. C'est une version socialement évoluée de l'instinct de survie. L'adversité teste le caractère. La violence politique et les systèmes d'oppression nous révèlent qui nous sommes. Ainsi, s'appauvrir pour conserver sa dignité est un scénario que le patriarcat a déjà donné l'occasion à bien des femmes canadiennes de tester. Le mouvement féministe recèle d'apprentissage et d'expertise sur la question. On ferait bien de s'y intéresser. De même, je suis, par mon père, une héritière du peuple haïtien qui s'est levée face à Napoléon Bonaparte pour dire « la liberté ou la mort ». Les Haïtiens connaissent le prix de la dignité. Rares sont les nations qui ont été aussi testées dans leur capacité à garder la tête haute face à la déshumanisation. On voit un phénomène similaire à l'œuvre chez les Palestiniens qui refusent de quitter Gaza, malgré les bombes, ou chez le peuple ukrainien qui tient tête à l'envahisseur russe avec une ténacité sans bornes depuis 3 ans. On remarque la même obstination chez les peuples autochtones, dont la puissance de l'Empire britannique et des générations de pensionnats et de génocides culturels n'ont pas réussi à venir à bout. Chaque personne queer qui a osé s'afficher exactement comme elle est dans des environnements hostiles où elle risque la violence, voire la criminalisation, a montré ce que l'humain peut avoir de têtu, même d'irréductible. Si des siècles d'hétéronormativité en Occident n'ont pas réussi à venir à bout de la diversité de genre et d'orientation sexuelle qui a toujours existé partout sur la planète, ce n'est pas Trump qui va y arriver avec ses décrets. Lorsque l'humain est testé sur sa dignité, sa sécurité, son attachement au sien ou son amour de la terre, dans tous les contextes et toutes les époques, on voit apparaître chez les gens ordinaires, sans histoire particulière, ce que les gardiens des grands mythes, épopées et romans du monde appellent des héros. Comme Québécoise, j'ai le sentiment que notre capacité humaine à nous battre pour notre dignité a déjà été davantage mise à l'épreuve, politiquement, chez nous, que dans d'autres régions du pays. Après tout, lorsqu'il est question d'en payer le prix pour garder la tête haute, on peut dire que l'adoption de la loi 101 et la transformation sociale et économique qui a suivi ont déjà montré ce dont nous sommes capables. On dit souvent que nous protégeons la langue française, mais je sens que c'est aussi la langue française qui nous protège. En s'obstinant dans sa différence, le Québec s'est développé autrement qu'en une économie de succursales américaines. J'ai l'impression, en observant le reste du pays, que nos compatriotes sont sur le point de découvrir un exercice politique proche de la Révolution tranquille. Et, puisqu'il est question de résister à l'américanisation, que nous avons beaucoup à leur apprendre. Quand on dit que l'épreuve politique que nous traversons fait ressortir la force des Canadiens, ça ne doit pas être dit avec chauvinisme. Je crois plutôt que les épreuves nous font connecter avec une part de l'expérience humaine qui reste souvent enfouie dans les époques de confort et d'indifférence. La crise que l'on traverse a le potentiel de mieux nous faire nous comprendre entre nous dans toute la diversité de nos expériences. C'est là, après tout, l'une des conditions de la véritable solidarité. C'était, sur l'héroïsme, un texte d'Émilie Nicolas paru le 6 mars 2025 dans Le Devoir.
Trump comme un rappel de la pandémie. Un texte de Philippe Mercure paru le 11 mars 2025 dans La Presse. La plupart étaient au milieu de leur secondaire quand la COVID-19 a frappé. 5 ans plus tard, les cégepiens d'aujourd'hui le disent franchement, la pandémie a profondément influencé ce qu'ils sont devenus, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Et l'élection de Donald Trump leur donne l'impression de replonger dans la même incertitude. C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Occupé à prendre des notes, je relève la tête intriguée. Celui qui parle s'appelle Ézéchiel Côté. Il étudie en radio à l'École supérieure en arts et technologies des médias, ATM, du cégep de Jonquière. Je vérifie. Ézéchiel parle bien de la pandémie de COVID-19 qui a mis la planète à l'envers il y a 5 ans. Être chez nous avec ma mère, ça m'a permis de retourner aux sources, de remettre les pieds sur terre, explique-t-il. Il évoque de mauvaises fréquentations, de mauvaises habitudes prises avant la pandémie. La pause forcée l'a contraint à s'en détacher. Quand tu es seul, tu apprends bien des choses. Tu apprends à vivre sans les autres, dit le jeune homme. Nous sommes dans une classe du pavillon ATM du cégep de Jonquière où 15 élèves ont accepté de me parler de la pandémie, de la façon dont ils l'ont vécu et en quoi elle les a changés. Comment ils voient le monde aujourd'hui? Comment ils vont? Je pense que je ne m'en suis jamais remise réellement, dit Anissa Leduc. Mon niveau social en a pris un coup. Avant, j'étais la personne la plus boblée au monde, mais ça a changé. Le 13 mars 2020, j'ai l'impression que tout s'est écroulé autour de moi, raconte l'étudiante en journalisme. L'arrêt des sports, des activités culturelles, l'arrêt de la vie sociale. Je suis un peu tombée en hibernation. J'étais toujours dans le sous-sol, toujours sur mon ordinateur. Aujourd'hui, se refermer sur elle-même est un réflexe trop facile qu'elle doit combattre. La vie d'adulte, dit Anissa, le fait d'aller en appartement seul l'an prochain, ça me fait peur. Ceux qui m'entourent avaient environ 15 ans quand la pandémie a frappé. Ils étaient assez vieux pour comprendre ce qui se passait, mais assez jeunes pour que les événements bouleversent la vision du monde et d'eux-mêmes qu'ils étaient encore en train de construire. Emma Billet a été marquée par le spectre des pénuries en début de pandémie. Voir les gens péter un câble parce qu'ils allaient manquer de papier de toilette. « Ça m'a stressée », dit-elle. « Maintenant, j'ai conscience qu'en tant qu'être humain, si on est en danger, on n'est jamais loin de se battre pour pas grand-chose. J'ai compris que notre intérêt personnel passe avant celui des autres, et je m'inclus là-dedans. Je ne serais pas une bonne personne avec qui collaborer si on se retrouvait dans un film d'horreur. » Autour de moi, les gens n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Ils se crinquaient entre eux. Ça amenait des discussions qui montaient, se remémore Mara Pomies. Elle se rappelle les pressions pour se faire vacciner. « Je me suis sentie oppressée », dit-elle. Amy Tremblay, quant à elle, a développé une peur des maladies qu'elle tente encore aujourd'hui de maîtriser. Du positif malgré tout. Sans surprise, plusieurs évoquent le déchirement de devoir couper les liens avec les amis à une période de la vie où ils sont si importants, ou l'arrêt brutal d'activités sportives qu'ils adoraient. Mais à travers le négatif émerge aussi du positif. Virginie Mailloux parle de la profonde insécurité qu'elle a ressentie lorsque les masques sont tombés. Ça a créé une peur d'être vue, dit Virginie, une conscience accrue de mon apparence physique. J'avais l'impression que si j'enlevais mon masque, j'étais moins belle. Mais la pandémie lui a aussi donné du temps pour renouer avec certaines passions délaissées comme la lecture et l'écriture. « J'ai commencé à jouer de la musique, à faire de la peinture », dit aussi Amy Tremblay. Plusieurs étudiants parlent d'un rapprochement bénéfique avec leur famille. Gabriel Couture explique qu'il était timide et renfermé avant la pandémie. Mais l'isolement a créé un tel manque qu'il a laissé exploser sa personnalité lorsqu'il a pu le faire. « Le confinement a modifié ma vie », confirme Brieuc Lemy, qui a déménagé de la France au Québec seul en pleine pandémie. « Je ne serais pas la même personne. Je n'aurais pas la même personnalité sans la COVID. » « Pour le mieux ?»« Pour le mieux », confirme-t-il. Atteint d'un TDAH, Louis Chevalier raconte qu'il a dû travailler plus fort pour réussir ses cours en ligne. « Ça m'a fait réaliser, dit-il, que le travail est quelque chose d'important. C'est le déclic que j'ai eu de me donner à fond dans tout ce que je fais. » Au moins 3 élèves affirment que la pandémie a influencé leur décision d'étudier dans le domaine des médias. « J'ai beaucoup délaissé Instagram, c'était trop polarisé », dit Cédric Bérubé. « Je me suis tourné vers les médias traditionnels, ce qui m'a amené vers ATM. » Quand Trump ravive des souvenirs. Liliana Gaillot met le doigt sur un sentiment que j'avais aussi ressenti à l'époque. Dans mon cas, c'était survenu avec la tragédie du CHSLD Aaron, lorsqu'on avait appris que des aînés étaient morts de soif. Appelez ça une perte d'innocence, une réalisation qu'on ne vit pas dans un film de Disney et que les choses peuvent réellement mal tourner, même au Québec, même à notre époque. On n'avait jamais vécu d'événements dramatiques, souligne Liliana. On est né après le 11 septembre. La pandémie est l'événement qui nous a forgés. Maintenant, on a la conscience collective de dire « ça peut arriver ». Quelque chose de gros qui bouleverse notre quotidien. On tient moins pour acquis ce qu'on a autour de nous. 5 ans plus tard, plusieurs ont l'impression de revivre les mêmes sentiments. Ils mentionnent l'élection de Donald Trump, la guerre en Ukraine, les dérèglements climatiques. Pendant la COVID, on sentait une séparation entre les Québécois, dit Véronique Hood. Là, on se sépare d'avec nos voisins les États-Unis. J'ai l'impression que le lien humain, tout ce que tu penses qui est certain, ce qu'on pensait qui allait revenir après la COVID, qu'on allait redevenir proche. Elle n'a pas besoin de terminer sa pensée pour qu'on la comprenne. Que ce soit avec la politique ou les changements climatiques, on dirait que le monde de demain est incertain. Comme pendant la COVID, résume Henri Agen. Le moyen que je vois pour me réconcilier avec tout ce qui va mal, c'est de m'impliquer, dit Marat Pommiès. Si je regarde de l'extérieur, je suis désemparé, j'ai l'impression que tout va s'écrouler. Ça me console de penser que j'ai fait quelque chose pour aider la situation, même à petite échelle. Les bouleversements actuels laisseront des traces, mais s'il faut en croire l'expérience de la pandémie telle que racontée par les cégepiens, on s'en sortira. Et il en émergera peut-être même plus de positif qu'on peut le penser. C'était « Trump comme un rappel de la pandémie », un texte de Philippe Mercure paru le 11 mars 2025 dans La Presse.
Le sport après 60 ans. Pousser la machine sans la briser. Un texte de Joanne Mercier paru le 14 février 2025 dans Virage. Que ce soit le pickleball, le hockey, le kayak ou la randonnée en montagne, l'activité physique est un excellent moyen de s'occuper à la retraite et de se maintenir en forme le plus longtemps possible. Après tout, il faut grouiller pour ne pas rouiller. Lorsqu'il est question de sport après 60 ans, peut-on pousser la machine sans risque? L'hiver, Christine Latour fait de la raquette et du ski de fond. L'été, de la randonnée et du vélo. La jeune retraitée de 64 ans consacre au moins une heure par jour à l'activité physique, 5 jours par semaine. Citation « Dès que la météo est favorable, je sens l'appel du dehors », raconte-t-elle. « Ce n'est pas seulement mon corps qui en bénéficie, mais aussi mon moral. De retour chez moi, je suis débordante d'énergie. » Fin de citation. La sexagénaire ne ménage pas ses efforts, mais comme toute personne de son âge, elle doit aussi composer avec un corps changeant, dont la masse musculaire et la densité osseuse diminuent. Sachant cela, devrait-elle réduire la durée et l'intensité de ses efforts physiques? Préparer son corps à bouger. Pierre Boulet, professeur à la Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke, croit que non, si l'on demeure conscient de nos limites et de nos besoins. Citation « La pratique d'un sport ne doit pas être une activité isolée, mais encadrée dans un programme d'exercice de musculation et d'aérobie qui permettra de l'exercer en toute sécurité », explique le spécialiste. Surtout chez les 60 ans et plus, alors que le risque de blessure augmente. Fin de citation. Garder la forme pour pratiquer un sport et non pratiquer un sport pour être en forme, voilà la clé. Même les athlètes de haut niveau suivent un programme d'entraînement. Pourquoi pas nous? Citation « Il ne faut pas se laisser décourager par les défis que pose une activité sportive », poursuit Pierre Boulet. « Je connais un homme de 65 ans qui, malgré le désaccord de son entourage, s'est mis en tête de courir un marathon. Il y est parvenu non seulement en courant, mais en préparant son corps à courir. Il a fait des exercices qui lui ont permis de renforcer graduellement sa musculature et sa capacité cardio-respiratoire. C'est sans grand risque qu'il a finalement atteint le fil d'arrivée. » Fin de citation. En fait, ce qu'il faut comprendre de cette approche est que l'on peut pousser la machine, à condition que la dite machine soit bien huilée. Christine est une adepte de ce principe de base. Quand elle n'est pas sur les pistes ou les sentiers, elle fait des étirements, du pilates et du yoga. Citation « Je demande beaucoup à mon corps. Je dois donc lui donner les moyens de répondre à mes attentes », dit-elle sagement. « Je suis beaucoup plus en forme que je ne l'étais à 50 ans, alors que je me levais tôt le matin, stressée, pour aller au gym avant de commencer ma journée de travail. » Fin de citation, poursuit-elle. Le cap des 70 ans. Entre l'âge de 70 et 75 ans, malgré notre bon vouloir, le corps se fait plus capricieux. De petits bobos surgissent, la récupération est plus lente et l'équilibre plus fragile, ouvrant la porte aux chutes, possiblement aux fractures. Mais ce n'est pas une raison d'accrocher ses patins ou de ranger sa raquette. Citation. Quand l'âge commence à vouloir contrôler notre corps, se garder en forme exige un effort supplémentaire, explique Pierre Boulet. Ralentir et même arrêter de bouger est la solution facile, mais on risque alors de s'aventurer dans une courbe insidieusement descendante. Fin de citation. Ce qu'il faut retenir, poursuit l'expert, c'est que le corps n'est pas figé dans le temps. Il est toujours possible d'améliorer sa condition physique ou encore de ralentir la perte imminente de la force musculaire et la capacité cardio-respiratoire normalement observées avec le vieillissement. Citation. Pour vous motiver, je propose de visualiser la personne que vous voulez être dans quelques années. Fin de citation. Conseille M. Boulet. Citation. Je ne voudrais pas revenir à la cinquantaine avec cette impression de courir après le temps plutôt que de courir pour me maintenir en forme, souligne Christine. Aujourd'hui, à l'aube de mes 65 ans, je vois toutes les années qui sont devant moi, je me projette et je m'assure que mon corps puisse me suivre. Fin de citation. Jamais trop tard pour bouger. Commencer à pratiquer un sport dans la soixantaine peut sembler intimidant. Citation. Si vous ne savez pas trop lequel choisir, n'ayez pas peur d'aller essayer plusieurs activités, conseille Pierre Boulet. Le plus important n'est pas d'en trouver une, mais de la maintenir. Fin de citation. Inutile de tomber en amour avec un sport et cesser de le pratiquer une fois passé le coup de foudre. Et pas besoin de se compliquer la vie. Marcher, nager et même monter les escaliers sont des activités qui délient et renforcent la musculature. Des doutes sur vos capacités? Pierre Boulet suggère de consulter une ou un kinésiologue qui évaluera votre condition et pourra vous donner des trucs pour améliorer vos chances de pratiquer le sport dont vous rêvez ou une activité adaptée à votre remise en forme, qui est un chemin à suivre, rappelons-le, pas une conquête de l'Everest. Votre corps vous parle? Écoutez-le. Avec l'âge, certaines précautions s'imposent. Par exemple, il peut être sage d'éviter de faire des mouvements brusques et répétitifs. Ils augmentent le risque de développer des tendinites ou des bursites. Il faut aussi éviter le surentraînement. La diminution du nombre de séances hebdomadaires peut aussi être nécessaire si le corps envoie des signes de détresse. Passé 60 ans, si la résistance et l'endurance peuvent être maintenues en y investissant temps et énergie, le temps de récupération est irrémédiablement plus élevé. Soyez à l'écoute de toute douleur suspecte. C'était « Le sport après 60 ans, pousser la machine sans la briser », un texte de Joanne Mercier paru le 14 février 2025 dans « Virage ».